Grand Dialogue.
Sigi Kafoba.
Edowani Wamakaran.
Le Grand Dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiru.
Halud Mounde.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le Grand Dialogue.
Le Grand Dialogue.
Mesdames, Messieurs, bonsoir. Nous sommes jeudi 18 septembre 2014. Bienvenue au Grand Dialogue qui parle ce soir de la place des acteurs dans les pourparlers d'Alger. Voici les trois axes de cette émission. Trois questions donc pour ce débat. Que prévoient les accords antérieurs en termes d'inclusivité des acteurs qui participent aux pourparlers? L'avis de la population sur le processus, nous parlons de cela en deuxième partie de l'émission. Que vaudra le futur accord avec ces nombreuses perturbations que nous constatons à Alger. Pour débattre de ces questions, Nene Konaté de l'Institut malien de recherche en action pour la paix, IMRAP, Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation et enfin Adama Diakité du Forum des organisations de la société civile. Merci messieurs, merci madame pour votre disponibilité. Je suis Famoussa Sidibé, Petit Ndiara est à la mise en onde. Le rôle et la place des acteurs dans les pourparlers d'Alger posent aujourd'hui problème. La coalition MNLA-HCUA-MAA refuse la participation de certains groupes armés aux pourparlers qui se veulent inclusifs. Alors, ma première question, comment parler d'inclusivité avec les perturbations que l'on constate à Alger? Nene Konaté de l'Institut malien de recherche Action pour la paix, IMRAP. À vous de répondre à cette question. Comment peut-on parler d'inclusivité aujourd'hui avec ces perturbations que l'on constate à Alger?
Merci, Monsieur Sidibé. Merci. Bonsoir à tous les auditeurs qui nous écoutent en ce moment. Pour parler d'inclusivité en ce moment, dans ce moment de perturbation à Alger, je dirais d'abord que il va de soi que l'inclusivité a été souhaitée par tous les acteurs, par tous les Maliens, dans la participation des différents acteurs à ce processus d'Alger. Et si en ce moment on assiste à des perturbations, bon, je pourrais dire que pour réussir l'inclusion des acteurs à un processus, il faut s'y prendre. Il faut savoir s'y prendre. Et aussi, on peut réussir une pleine inclusion des acteurs à un processus que à travers la représentation légitime de ceux-là qui participent au processus.
Alors, d'emblée, il y a le MNLA qui avait demandé plus de clarifications, par exemple, dans la participation de la société civile qui a d'ailleurs retardé les pourparlers après le démarrage, après l'ouverture des travaux. À titre de rappel, Achanga, vous représentez le ministère de la Réconciliation. À titre de rappel, l'article 23 de l'accord de Ouagadougou stipule que le présent accord est ouvert à l'adhésion d'autres groupes armés maliens non signataire qui s'engage à respecter toutes les dispositions sans condition de l'accord de Ouagadougou. Est-ce que vous pensez aujourd'hui que les acteurs sont sur cette dynamique?
Bonsoir, mesdames et messieurs. Bonsoir les auditeurs. Et merci de nous avoir invités à ce débat. Et je pense que comme l'accord le stipule. Aujourd'hui, il a été dit que Ouagadougou, c'est un accord inclusif. Inclusif veut dire que tout le monde participe. Et quand on doit aujourd'hui signer un accord, cet accord ne doit pas être comme les accords passés. Nous avons tiré les leçons de tous les accords depuis 1963, ça a été résolu par la guerre. Mais en tout cas, depuis les rébellions passées, tout ce qui s'est passé, il y a eu des accords entre seulement les mouvements qui ont pris les armes contre l'État et le gouvernement malien. Et même le gouvernement malien le faisait sans la population. Parle au nom de la population, mais la population n'était pas directement consultée. Si bien que cette fois-ci, nous avons dit, avant même d'aller à des accords, il faudrait que nous fassions, nous tirons toutes les leçons des accords passés. Pourquoi il y a eu des accords signés entre les groupes armés et le gouvernement et que ces accords n'ont jamais abouti à quelque chose. En 90, il y a eu des accords qui ont été signés, qui n'ont pas abouti. En 92, il y a eu le pacte national qui n'a pas abouti. En 2006, il y a eu l'accord d'Alger qui n'a pas abouti. Cette fois-ci, nous avons dit il faut que vraiment on tire toutes ces leçons et voir maintenant s'il y aura accord cette fois-ci. Il faut que ce soit un accord définitif. Donc pour que ça soit définitif, il faut qu'il y ait tous les acteurs. Quand je dis acteurs, ce sont ceux-là qui ont pris les armes et ceux-là qui ont subi les affres de la guerre. Donc c'est pour cette raison que cette fois-ci, au niveau d'Alger, il y a le gouvernement, il y a les groupes armés, conformément à l'accord de Ouaga, même ceux qui n'étaient pas signataires de l'accord sont partis. On a aussi envoyé la société civile des régions du Nord et aussi la société civile au niveau national, ainsi que certains mouvements tels que la CAFO, etc., etc. Donc qui sont aujourd'hui partie prenante et qui sont à Alger. Et c'est la raison pour laquelle pendant une semaine, les médiateurs ont écouté la société civile, entendre les doléances des populations qui ont souffert. Parce que quand je dis souffert, ce n'est pas seulement ceux qui étaient sur le terrain qui ont souffert, même ici à Bamako, parce qu'on a accueilli des gens. On a accueilli des gens de Kaï jusqu'à Sikasso. Donc tout le monde a souffert de cette guerre. Tous les Maliens ont souffert. Et il faudrait donc que cette fois-ci, qu'on tire les leçons et qu'il y ait un accord définitif. Okay. Maintenant, s'il y a des gens qui disent on n'est pas d'accord, on n'est pas... Comprenez que des négociations, chacun essaie de monter un peu la température pour pouvoir attirer les choses. Mais je crois que aujourd'hui, tout de suite, vous-même, vous l'avez annoncé sur votre antenne, tout le monde est revenu sur la table et nous espérons que ça ira de bon pied.
Alors, Adama Diakité, vous représentez le Forum des organisations de la société civile qui a été fortement mobilisée pour participer au pourparlers d'Alger. De quel œil est-ce que vous voyez cette condition aujourd'hui que pose la plateforme MNLA-ACUA MAA à ce que les autres groupes armés ne se mettent pas qu'on ne mette pas les autres groupes armés qui sont favorables à Bamako au même niveau que leur plateforme.
Ok, merci et salut à toutes les auditrices et auditeurs. Et merci vivement à Radio Tamani. Je suis heureux d'être ici pour la deuxième fois. Vous savez, les négociations pour résoudre définitivement la crise du Nord concernent toutes les Maliennes et tous les Maliens. C'est l'affaire de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. En amont, à prime abord, quelqu'un qui prend l'arme contre son pays est condamnable. C'est incompréhensible que celui qui prend l'arme contre son pays dise que celui qui n'a pas pris l'arme ne doit pas participer au dialogue pour aboutir à la paix. Je crois que la communauté internationale doit soutenir le gouvernement malien et le peuple malien pour que de celles surenchères ne soient plus. Vraiment, ça c'est une conviction forte de la société civile. Et nous voudrions que chacune participe vivement à ce débat-là. C'est pour la paix, et une paix définitive. Nul ne sera exclu. La société civile y veillera, sonnera l'alarme quand il le faut, et mettra les moyens qu'il faut pour que chacun et chacune participe au débat pour une paix durable et définitive dans notre pays. Et le MLA... Parce que nous sommes en négociation, chacun va faire la surenchère. Mais il faut que la communauté internationale sache vraiment supporter le gouvernement malien et le peuple malien pour que cela cesse. Et le MELA n'est pas le seul représentant des populations du Nord. Et cela est certain. Et donc, puisque tel n'est pas le cas, la communauté internationale doit prendre ses responsabilités. Vous savez, je le dis hein, quand même parce que ça vient du cœur, la communauté internationale a failli sur un certain nombre de points. Quand il s'agit de libérer, par exemple, des gens que les populations ont vu massacrer, des femmes, violer des femmes et leurs filles, Et quand, sous la pression de la communauté internationale, ces mêmes personnes sont soustraites de la justice pour la paix de grâce. Dites aussi au Mela, on vous a fait suffisamment, on a accepté suffisamment de doléance, allez avec le gouvernement du Mali, allez avec la population du Mali. Telle est la position de la société civile par rapport à cela. Merci.
Alors, Asianga Maïga, Ibrahim Asianga Maïga, vous représentez le ministère de la Réconciliation. Y a-t-il des risques aujourd'hui d'enlisement du côté de cette plateforme MNLA, ACUA et MAA? Est-ce qu'il y a un risque de prise en otage des négociations?
Mais je ne pense pas. Je ne pense pas. Et comme on l'a dit aujourd'hui, pour un début, c'est la surenchère. Chacun essaye d'attirer les gens vers son côté. Et je crois que tous ces mouvements, aujourd'hui, sont en train de revenir à de meilleurs sentiments. Et je pense que nous allons dans ce sens. Et surtout qu'il a été très clair, dans le premier round des négociations à Alger, il a été dit que tous ceux qui n'acceptent pas d'être dans l'accord, vous venez vous présenter vos doléances. On va voir, on va les discuter ensemble et on va signer un accord. Et tous ceux qui ne seront pas d'accord avec cet accord, qui ne signeront pas cet accord, seront vus comme des ennemis du peuple malien. Et la communauté internationale est d'accord avec ça. Et le Mali et la communauté internationale combattront de toutes les forces tous ceux qui ne seront pas d'accord avec l'accord qui sera signé.
Alors, nous allons demander à madame, peut-être qu'elle a des mots plus doux, les hommes sont un peu plus coriaces. Alors, madame, quel est le combat de votre institut vis-à-vis de la crise actuellement? Est-ce que vous menez des actions pour faciliter le dialogue à Alger?
Dire que l'Institut malien de recherche Action pour la paix ne facilite pas uniquement le dialogue pour Alger. Mais l'Institut malien de recherche Action pour la paix a inscrit ses actions dans la durée. Donc, dans la durée, pour vraiment favoriser l'inclusivité de toutes les communautés maliennes, où qu'elles soient, du nord au sud au centre, et qu'on leur offre des espaces de dialogue pour qu'ils puissent faire le diagnostic profond de cette crise, les enjeux de cette crise sur leur vie dans leur communauté proche et ainsi qu'au niveau des communautés ailleurs. Parce que quand nous sommes allés dans les régions du sud du Mali, les gens nous ont dit « cette crise, elle nous concerne tous ». Et elle pouvait commencer par chez nous, comme cela a commencé par le nord. Donc nous nous sentons tous concernés. Et lorsque nous avons ouvert ces espaces de dialogue, j'avoue que le peuple malien veut se faire comprendre, veut se faire entendre. Et chacun a quand même quelque chose à dire concernant cette crise. Et nous, derrière cette inclusivité, nous mettons le processus sur la durée pour que les Maliens vraiment s'approprient ce processus qui va nous amener à une paix durable. Et sans cette appropriation, je pense qu'on arrivera à un accord qui sera comme les autres accords. Et de ce fait, nous pensons qu'il faut donner le temps au temps pour vraiment que, comme les autres l'ont dit, que la société civile veille, c'est vrai. Mais il y a beaucoup de gens qui ne se retrouvent pas dans la société civile, mais qui sont là, qui peuvent apporter leur contribution. Mais ce qu'ils veulent, c'est de leur offrir des espaces pour qu'ils puissent vraiment s'exprimer.
D'accord. Alors, nous allons entamer la deuxième partie juste après quelques secondes de pause.
Vous écoutez Studio Tamani. Votre avis nous intéresse. Écrivez vos commentaires et suggestions sur la page Facebook et dialoguez avec nous. Studio Tamani, c'est aussi les réseaux sociaux.
Alors, dialoguez avec nous et vous nous écoutez à travers l'une de nos 20 radios partenaires à travers le Mali qui retransmettent soit en direct ou en différé la production du Studio Tamani. L'émission d'aujourd'hui porte sur la place des acteurs dans les pourparlers d'Alger. Cette deuxième partie est consacrée à l'avis de la population sur le processus en cours à Alger. Nos invités, Néné Konaté de l'Institut malien de recherche Action pour la paix, Ibrahima Changa Maïga du ministère de la réconciliation, Adama Diakité du forum des organisations de la société civile, et nous vous proposons, juste avant d'entamer cette deuxième partie, la réaction de monsieur et madame tout le monde que nous avons recueilli ce matin. C'est un micro-trottoir réalisé par Sekou Gadigo sur l'avis de la population par rapport au processus d'Alger.
Le processus d'Alger, c'est un prolongement des accords de paix qui ont été signés à Ouagadougou. Les groupes proches du gouvernement malien, ils font partie de ces accords. Alors pourquoi aujourd'hui le MLA et d'autres groupes comme le ACIA, comme le MAA, qui n'est même pas originel, refusent que ces gens-là participent à ces négociations directes? Donc maintenant, moi je pense qu'il faudrait que la communauté internationale regarde toute l'ampleur de ce que ces groupes armés sont en train de poser comme acquis et d'en tirer toutes les conséquences.
Alors moi je pense tout simplement que aujourd'hui cette dissidence qui se crée au sein de ces mouvements armés montre à suffisance que ça ne va pas. Parce qu'en fait, ils n'ont pas les mêmes visions, ils n'ont pas les mêmes projets. Cela démontre encore une fois que c'est un partenaire avec lequel les négociations vont être extrêmement difficiles. Quitte au gouvernement maintenant, vraiment de taper du poing sur la table, leur dire écoutez, nous sommes là pour négocier, il faut qu'on négocie. C'est une question délicate parce qu'on ne sait pas sur quelle base ils ont procédé à cette sélection, qui peut venir, qui ne peut pas venir. Bah, tout le monde s'est retrouvé là-bas.
Et les MLA n'a aucun des droit de dire qui participe et qui ne participe pas.
En fait, moi, mon simple avis, ce n'est que des stratégies. Et vous savez, les négociations, c'est souvent ça. Quoi que tous ils l'ont dit ici, ils l'ont affirmé ailleurs, qu'ils sont là pour la paix, ils vont œuvrer pour la paix. Donc, à mon sens, il faut comprendre les gens souvent dans leur position, les prises de position, il faut les comprendre. Sinon, moi, je ne pense pas que c'est pour ne pas aller vers les négociations, dans la mesure où ils ont accepté d'aller à Alger pour s'asseoir pour faire face, comment dirais-je, à l'État malien.
Alors, vous venez d'entendre l'avis de monsieur et de madame tout le monde aujourd'hui recueilli par Sekou Gadigo. Je vais lire un petit passage de l'accord de Ouagadougou qui dit en deux mots, en cas de difficulté de mise en œuvre ou d'interprétation des dispositions du présent accord, c'est-à-dire l'accord de Ouagadougou, les parties s'engagent à trouver une solution par la concertation. À défaut d'un accord par la concertation, elles s'en remettront à la réconciliation du chef MISMA qui n'existe plus, MINUSMA, et du médiateur de la CEDEAO. Pensez-vous que ces différents organes jouent pleinement leur rôle à Changa Maïga?
Oui, ces organes jouent pleinement leur rôle. Et il ne faut pas aussi oublier vraiment le rôle que l'Algérie est en train de jouer aujourd'hui. Une république que nous considérons une république sœur, vraiment qui est en train de jouer tout le rôle qu'il lui faut, dont on attend de lui. Vraiment, il y a la MINUSMA qui est là-bas, il y a la CEDEAO qui est là-bas, il y a l'Union africaine qui est là-bas. Il y a l'Union européenne qui est représentée et bref, tous nos partenaires techniques et financiers vraiment sont représentés et qui jouent pleinement leur rôle. Et chaque fois qu'il y a dérapage, ils essaient de voir de faire la médiation et c'est même ce résultat qui est obtenu aujourd'hui, c'est grâce vraiment à leur concours. Donc vraiment, nous pensons que ça peut arriver, comme quelqu'un l'a dit, c'est la surenchère. Bon, mais chaque fois, on revient à de meilleurs sentiments et les choses iront bien.
Alors, la société civile représentée ici par Adama Diakité du Forum des organisations de la société civile, pensez-vous qu'il faille aller plus loin que ce qui est fait déjà par les partenaires?
Bon, vous savez, et il est toujours bon d'aller plus loin quand ce qui est fait n'est pas suffisant. Donc, si on constate une insuffisance certaine, il va de soi qu'on va aller plus loin. Si quand même on se satisfait, on trouve une satisfaction totale de ce qui a été posé comme acte, c'est déjà un acquis. Il faut renforcer cela. Et par rapport à votre intervention précédente, moi je souhaiterais vivement qu'on n'arrive pas à solliciter l'amunissement ou une autre structure. Ce n'est pas un souhait, en tout cas en ce qui me concerne, que l'on fasse tout. Si nous sommes tous sincères, que nous sommes des Maliennes et des Maliens, comme chacun aime à le dire. Et quand j'entends les interviews de ceux qui sont à Alger, de ceux qui sont revenus à Alger, tout le monde dit, c'est vrai, tous ceux qui sont là-bas partagent le sentiment, le respect de l'intégrité, la laïcité du pays, tant, c'est très bien. Si cela est sincère, il faut qu'on y arrive. Si on n'arrive pas, ça veut dire que quelqu'un fait faux jeu. Et c'est en ce moment qu'on va arriver à l'aménagement et autres. Transcendons cela. Transcendons notre propre ego, l'ego de notre structure, l'ego de notre communauté et entendons-nous pour le bonheur de toutes les Maliennes et de tous les Maliens. Ça, c'est un vœu. Et ce vœu-là, la société civile va se comporter, va poser des actes pour que cela soit.
Alors, quel sentiment est-ce que les populations ont aujourd'hui, en dehors de ce que vous venez d'entendre, madame? Pensez-vous que les populations se sentent concernées par les pourparlers d'Alger?
Merci Sidi B. Vraiment, je vais rejoindre mon frère
Adama
Diakité pour dire que c'est vrai que la communauté internationale, les institutions comme la CDAO, l'aménagement, on a besoin de leur appui, accompagnement. Mais je pense que ce processus de négociation, de réconciliation doit être porté par les Maliens. Où qu'il soit. Et ça doit être un processus piloté par les Maliens. C'est vrai que notre gouvernement a déjà beaucoup fait pour inclure toutes les catégories sociales. Mais inclure quelqu'un ne veut pas dire qu'obligatoirement la personne doit être là. Mais c'est de prendre en compte les aspirations de toutes les communautés vivant dans leur contexte. Et aussi veiller surtout sur le choix des personnes qui doivent participer à ces processus de négociation. Et j'insiste là-dessus pour dire que c'est ainsi que l'IMRAP, depuis 10 mois environ, a sillonné toutes les régions du Mali pour ouvrir des espaces de dialogue avec des représentants des communautés, mais vraiment une sélection dans toutes les catégories socio-professionnelles d'une localité donnée pour leur donner l'espace de faire leur auto-diagnostic et d'arriver à vraiment à s'exprimer sur la vie de la nation. Et je pense que dire que les acteurs, tout le monde est concerné par la recherche de la paix. Parce que Alger, c'est la paix que nous recherchons. Et c'est en cela aussi qu'il faut arriver à inclure toutes les catégories de la société malienne et à faire en sorte que les Maliens se retrouvent dans ce processus pour que vraiment ils puissent aussi le porter à leur tour et arriver à construire cette paix de façon durable, même après l'accord d'Alger.
Alors, nous allons parler de la suite, hein, du suivi qui peut être fait aujourd'hui de l'accord futur qui sera signé à Alger dans la troisième partie de ce débat. Mais d'abord, Ibrahim Achanga Maïga, vous représentez le ministère de la Réconciliation. Le Mali, le gouvernement malien et les groupes armés ne traînent-ils pas les pieds dans la poursuite des négociations? Est-ce que cet état de fait peut être toléré davantage par la communauté internationale, sachant qu'il y a d'autres conflits plus brûlants dans le monde aujourd'hui?
Bon, je pense que nous ne traînons pas les pieds, mais nous sommes en train de voir seulement pour poser des jalons qui pourront nous amener à une paix durable pour que tout ce qui s'est passé avant ne se répète plus. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui nous avons travaillé déjà sur certains axes prioritaires que nous pensons que c'est des axes prioritaires de réconciliation nationale et qui vont nous permettre justement de poser ces jalons et d'inclure dans cette paix, dans cette forme de réconciliation tous les acteurs maliens. Au niveau des acteurs maliens, je dirais que il ne faut pas penser seulement que c'est cette guerre. Aujourd'hui, le problème de civisme, la citoyenneté, on a besoin de se réconcilier même avec nous, avec les jeunes. On a besoin de se réconcilier avec les femmes dans tout le pays. On a besoin aujourd'hui de savoir qu'est-ce que c'est que le drapeau malien. On a besoin aujourd'hui de savoir chanter l'hymne national et de savoir que mon prochain, il est comme moi. De savoir sauvegarder la nature, etc. etc.
Et cela ne fait pas trop de chantier en même temps ?
Et non, je ne pense pas, parce que quand on élabore une politique et des axes stratégiques, c'est pour le long terme. Et ce n'est pas seulement le ministère de la Réconciliation nationale seulement qui doit s'en occuper. J'ai dit, c'est l'ensemble du peuple malien. Et dans l'ensemble du peuple malien, nous sommes en train de voir aujourd'hui pour voir étudier tout ce qui n'a pas marché. Regardez seulement les pays qui nous entourent. Quand on regarde la Côte d'Ivoire, on regarde le Niger, nous avons hérité à l'indépendance, nous sommes partis à un système socialiste. Donc les légitimités traditionnelles, on les a bannies. Aujourd'hui, nous sentons, avec tout ce qui nous arrive.
On était dans la dictature.
Avec tout ce qui nous arrive aujourd'hui, nous sentons que ces gens ont un rôle à jouer.
Ces gens qui ?
Ce que nous appelons les légitimités traditionnelles, c'est-à-dire les chefs traditionnels, les chefs religieux. Hein, dans le cadre de la réconciliation. Et même dans le cadre de la recherche de la paix. Quand aujourd'hui, parce que cette crise-là, nous avons senti même que est-ce que ce n'est même pas notre forme de décentralisation même, notre forme de démocratie qui nous a mené même à cette crise.
Est-ce qu'en un mois, on peut tout résoudre à Alger ?
Non. Alger va poser les jalons. Et ces jalons-là, quand Alger va les poser, il faut que nous puissions prendre le relais, les traduire dans nos langues, faire passer le message d'Alger dans tout le pays, à travers la société civile, à travers des organisations telles que pour Madame Néné, à travers les autorités religieuses. Il faut que les religieux prêchent la paix. Il faut que les légitimités traditionnelles aussi vraiment prêchent la paix. Donc tout ça, ce n'est pas... Alger va... On sent déjà ce qu'Alger va un peu poser. C'est pourquoi nous avons écrit dans notre axe stratégique 2, soutien et accompagnement des actions de réconciliation nationale de ce qui va se poser à Alger, c'est-à-dire l'accompagnement de l'accord de paix global et définitif d'Alger.
Donc vous réfléchissez déjà.
On réfléchit déjà à ce qui est après l'après-accord.
D'accord.
Et dès qu'ils vont venir, ça trouvera que déjà le gouvernement aura adopté ce document et nous allons commencer maintenant avec l'ensemble de la population malienne, je dirais, c'est-à-dire la société civile, les communautés, tout le monde. On va commencer déjà à agir sur le terrain.
D'accord. Alors, Adama Diakité, du Forum des organisations de la société civile, le Mali et les groupes armés ont-ils intérêt aujourd'hui à retarder les négociations, les pourparlers à Alger ?
En tout cas, ce dont je suis sûr, le Mali n'a pas du tout intérêt. Maintenant, les groupes armés, vous savez, cette affaire de groupes armés, là, leur motivation réelle, je vous avoue que nous l'ignorons, hein. On peut se leurrer facilement par rapport à ça.
On dit qu'il y a des problèmes de développement au Nord.
Certes, il y a des problèmes de développement
au Nord. Gouvernance.
De gouvernance. Et des problèmes de gouvernance, pas pour le Nord seulement. La mauvaise gouvernance au Mali, c'est au Mali, c'est national. C'est au national. Les départs, les dérapages.
Le besoin se fait plus.
Le dérapage dans la gouvernance, c'est national. Ça, c'est clair. La corruption, elle est nationale. Maintenant, en ce qui concerne le Nord, de façon géographique, de façon naturelle, le Nord est défavorisé. Cela est clair et net. Mais avec les différentes rébellions qui se succédaient, des actions ont été entreprises pour qu'il y ait un développement au Nord. Certes, il y a eu des embûches. À qui on a confié ces programmes de développement pour le Nord ? Ça, c'est une question profonde qu'il faut essayer de répondre, à laquelle il faut essayer de répondre. Oui, il y a eu des actions. Il y a eu plus de combien de milliards investis au Nord ? Comment est-ce que ces sous ont été gérés ? Qui les a gérés ? Quels sont ces programmes-là ? Comment est-ce que ça a fait faillite ? Pourquoi ça a fait faillite ? Recherchons tout cela, faisons le doute de tout cela et posons les jalons pour le développement. Aujourd'hui, tout le monde est d'accord qu'il y a un problème de développement. Il y a un déséquilibre géographique là. Hein ? Donc, il faut le combler. Ensemble, on peut le faire. Mais de grâce, ce n'est pas avec les armes qu'on peut le faire. Quel que soit Alpha, tant qu'on ne pose pas les armes, il n'y aura pas de développement. Ça, c'est clair. Donc, les groupes armés aussi ont intérêt à baisser les armes. Mais puisque certains vivent uniquement de ça, ça va perdurer un peu. OK ? Et la communauté internationale doit jouer un rôle, son rôle véritable, d'influencer les groupes armés, soutenir le gouvernement et les peuples maliens. Et le gouvernement est obligé, la société civile veillera, à reconsidérer tout ce qu'on reproche à ce gouvernement-là, à ces différents gouvernements par rapport à la gestion du Nord. OK ?
D'accord. Voilà. Alors, nous allons observer quelques secondes de pause avant la troisième et dernière partie du débat.
Une réaction ?
Un avis ?
Un commentaire ?
Réagissez sur la page Facebook de Studio Tamani et restez connectés avec nous.
Studio Tamani sur les réseaux sociaux pour vous faire entendre.
Les réseaux sociaux et également sur notre site web www.studiotamani.org et justement le réflexe de jeter un œil sur notre page Facebook pour approfondir le débat que vous entendez actuellement. Nous parlons ce soir dans le Grand Dialogue de la place des acteurs dans les pourparlers d'Alger. Cette troisième partie est consacrée à la question suivante. Que vaudra le futur accord avec les nombreuses perturbations que nous constatons à Alger? Pour débattre de cette question, Néné Konaté de l'Institut malien de recherche Action pour la paix. Imrap est avec nous, également avec nous, deux autres invités, Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation et Adama Diakité du Forum des organisations de la société civile. Alors, madame, vous parliez tout à l'heure du suivi qu'il peut y avoir après que les groupes armés et le gouvernement se soient entendus sur un accord définitif à Alger. Alors, aujourd'hui, quel suivi peut-on établir après la signature de cet accord?
Bon, le suivi
qu'est-ce que vous avez
que les acteurs de la société civile, IMRAP, c'est un acteur de la société civile, mais le suivi que nous ferons devra être en phase avec les stratégies qui seront définies au niveau du ministère de la Réconciliation nationale. Parce que je pense que, comme je l'ai dit, il faudrait vraiment maintenir cet esprit d'inclure, d'associer les Maliens à l'entretien de ce qui sortira d'Alger. Et comment se faire, comme on l'a dit, les Maliens, ils savent quelque chose, mais souvent, il leur manque des espaces pour s'exprimer. Et ce ne sont pas que les armes qui sont un obstacle à la paix aujourd'hui au Mali. Je vous ai dit que IMRAP a parcouru toutes les régions du Mali.
Y compris Kidal.
Kidal est en cours, mais nous avons rencontré des gens de Kidal dans les camps de réfugiés. Et qu'on soit au nord, comme au sud, comme au centre, je vous assure que nous avons relevé plusieurs autres obstacles à la paix qui va au-delà de la simple prise des armes.
Comme quoi, par exemple?
Je pense que les uns et les autres l'ont dit ici. Il y a un grand problème de gouvernance du pays qu'on pourrait même traduire à travers la crise de légitimité des représentants des différentes institutions, qu'elles soient nationales, qu'elles soient communautaires. Il y a une grande crise de légitimité. Les gens ne se reconnaissent pas en ces représentants, qu'ils soient de l'État ou des communautés, même de la société civile. Les communautés, les gens ne se reconnaissent pas souvent en nous. Donc, il y a ce problème à résoudre. Et je ne vais pas rentrer ici dans tous les détails, mais je vous assure que nous avons besoin de poser un diagnostic plus approfondi pour identifier les obstacles à la paix au Mali et au niveau de chaque contexte malien, parce que les contextes sont différents. Peut-être que nous allons nous retrouver avec les mêmes obstacles, mais il est important que chacun s'approprie de ces obstacles au niveau de son contexte de vie. Et c'est en ce sens que nous pourrons arrimer ce dialogue communautaire avec le dialogue politique pour pouvoir entretenir ce qui va sortir d'Alger.
Alors, Ibrahim Achanga Maïga du ministère de la Réconciliation, tout le monde sait que l'accord qui devra sortir d'Alger sera un accord fragile. Comment faire aujourd'hui pour renforcer cet acquis futur?
Oui, bon, l'accord qui sortira d'Alger, comme je l'ai dit, nous avons déjà anticipé. Nous sommes en train, nous, d'élaborer en tout cas la stratégie pour faire passer, en tout cas, le message Et nous avons dit qu'il faudrait d'abord que cet accord-là, dès que ça viendra, c'est d'élaborer un plan d'action pour la mise en œuvre de cet accord, avec donc des échéanciers bien données qui permettront d'abord de pouvoir... ça, c'est au niveau technique. Et après, maintenant, on va prendre des acteurs, c'est-à-dire ceux qu'on appelle les acteurs de terrain, société civile, les autorités religieuses, les autorités coutumières, les autorités administratives, leur faire approprier. Il faut qu'eux-mêmes, d'abord, ils s'approprient de cet accord d'Alger. Une fois qu'ils auront assimilé l'accord d'Alger, il ne faut pas qu'on pense que cet accord qui va sortir, c'est seulement le gouvernement et les groupes armés.
Quel sera le rôle des communautés, des notabilités dans le renforcement de cet acquis?
Le rôle des communautés, c'est qu'aujourd'hui, vous savez, tel que le Nord, tel que je le connais, prenons les problèmes de justice. Quand un juge de paix règle un problème, dites-vous bien que ce problème n'est pas résolu. Ça serait une succession de règlements de ce problème. Et tout juge qui va venir va réveiller le problème pour que justement, comme ils l'ont dit, le problème de corruption, c'est comme ça que ça se passe. Mais nous avons constaté que si le problème est réglé au niveau des autorités traditionnelles, le problème est posé. Et d'ailleurs, dans toutes les rencontres intercommunautaires que nous avons organisées, les gens fortement demandent ça, que leur problème soit résolu par eux-mêmes, au niveau de leurs autorités traditionnelles, au niveau des autorités religieuses. Quand le marabout du village, conformément à ce qui est dit dans le Coran, il règle le problème, dites-vous que ce problème est définitif, c'est réglé. Mais quand ça vient au niveau de la justice, là, ça peut poser des problèmes. C'est pourquoi nous allons mettre l'accent sur la justice transitionnelle. Et la justice transitionnelle est aussi un autre aspect, c'est cette commission vérité, justice, réconciliation que nous avons mise en place. Et qui aura des démembrements dans toutes les régions, pas seulement les régions du Nord, mais même dans toutes les régions du Mali et dans tous les cercles. Et tous les problèmes dont on pense qui existent entre des individus, entre l'État et des gens, entre des gens et l'État, etc., etc., de 1960, je dis bien de 1960 jusqu'en 2013, peut être posé à ce niveau. On verra si le problème, au niveau de la justice transitionnelle, on peut résoudre le problème, on le résoudra. Dans le cas contraire, on amènera ça au niveau de la justice dite moderne.
Alors, Adama Diakité du Forum des organisations de la société civile, l'unité nationale est déjà très fragile. Dans quel état il sortira après cet accord définitif?
Cet accord définitif, permettez-moi, que vous savez, M. Maïga a dit quelque chose sur laquelle je voudrais préciser, en fait, donner mon point de vue personnel. Ceux qui sont à Alger, dans mon entendement, avant qu'il ne soit là, il y aura sûrement des recommandations très fortes. En fonction de ces recommandations, ils doivent, eux, mettre des activités pour le suivi. Oui, il faut obligatoirement un plan d'activité conformément aux recommandations qui sont sorties d'Alger. Et c'est eux qui doivent le faire. Nous, on ne le fera pas à leur place ici. Ce qu'eux, ils feront, ils s'en sentiront responsables.
Eux, c'est qui?
Le gouvernement malien, les groupes armés, les partenaires qui sont avec le Mali et les groupes armés. Ensemble, ils vont faire des recommandations fortes. Que des actions suivent ces recommandations fortes. Et en ce moment, un comité de suivi sera là pour travailler autour de ça. Maintenant, après ça, le Mali doit sortir plus fort. Si cela marche, comme nous sommes en train de le dire théoriquement, nous devons sortir plus fort. Chacun doit être réconforté. Et je souhaite vivement que cela soit une réussite totale. Et si tout le monde y participe, l'intérêt de cela, c'est quoi? Quand tout le monde y participe, quand il y a réussite, le sentiment de réussite est partagé par tous. Et quand il y a échec, je ne le souhaite pas du tout, le sentiment d'échec est partagé par tous. Mais c'est certains ou bien certaines qui portent le chapeau, ils en seront responsables. C'est pourquoi moi je souhaite vivement qu'ils fassent des recommandations, qu'ils fassent un plan d'action conformément à ces recommandations. Et en ce moment, les acteurs qui seront désignés.
Oh, allez-y.
Donc vraiment pourront s'attaquer à la tâche quotidiennement pour résoudre vraiment définitivement ce problème du Nord. Le Mali serait plus grand et plus fort.
Alors, madame, nous parlons de l'unité nationale. Est-ce que l'unité nationale est aussi fragile que ça, vu qu'il y a eu un acquis assez important? Les groupes armés et le gouvernement se sont entendus sur l'intégrité territoriale du Mali, la laïcité du pays. Est-ce que vous pensez finalement que l'unité nationale est fragilisée, comme nous le disons?
Je pense que on ne peut pas dire que l'unité malienne n'est pas fragilisée, parce qu'aujourd'hui il y a une crise de confiance, non seulement entre les communautés vivant sur un même territoire, mais aussi une crise de confiance entre des communautés à nos gouvernants. Donc ça, c'est des choses qui peuvent fragiliser l'unité nationale. Mais par ailleurs, le Mali est riche de valeurs ancestrales qui peuvent aider à sauvegarder cette unité nationale. Et le plus important, à notre avis, est que les Maliens se retrouvent dans cette crise, qu'ils comprennent les enjeux de cette crise sur leur vivre ensemble et qu'ils puissent identifier des solutions durables pour améliorer ce vivre ensemble d'antan malien qui est bien apprécié par tout le monde. Sinon, au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas dire que la société n'est pas fragilisée à cause de cette crise de confiance qui existe non seulement entre les communautés, mais entre les communautés et aussi les gouvernants. Donc, il faut travailler à mettre les Maliens ensemble, à ce que nous aimons, parce que après la signature des accords, je pense que ce n'est pas une fin en soi pour aller vers une paix durable. Et ce que nous recherchons, c'est une paix durable. Moi, je suis heureuse d'apprendre maintenant de M. Maïga qu'il prenne en compte la composante des différents piliers de la justice transitionnelle. Effectivement, les Maliens, je pense, ça n'engage que moi, quand même, qui disent que la paix, l'accord ne veut pas dire et impunité. Et souvent même, un simple pardon, reconnaissance de ce qu'on a fait et de demander pardon peut aider soulager dans notre victimes. Communauté à soulager certaines victimes. Et je pense que nous devrons vraiment arriver à un sursaut national au Mali. Donner de l'espace à tous les Maliens de pouvoir participer à la reconstruction de ce pays.
Okay. Alors, ceci est entendu, mais nous n'allons pas vous laisser, madame. Vous allez préparer le cri de cœur de la maman pour la fin et de cette crise au Mali. Mais juste avant, nous allons demander aux deux autres invités de prendre 30 secondes pour leur mot de la fin par rapport à cette crise. Un mot pour la paix, Ibrahim Achanga Maïga, du ministère de la Réconciliation. 30 secondes.
Bien, merci beaucoup. Et je pense que quand nous parlons de réconciliation nationale, l'unité, la paix dont on parle, c'est vraiment quelque chose que nous le cherchons tous. Un ressortissant de Kidal doit sentir qu'il est caïsé. Un ressortissant de Sikasso doit sentir qu'il est Nyorwa, etc., etc. Et à travers notre plan d'action, notre plan d'action que nous avons élaboré, nous allons faire en sorte que tous les Maliens se sentiront désormais Maliens à travers la citoyenneté et à travers vraiment le bien-être et la cohésion sociale.
Merci beaucoup, M. Maïga. M. Diakité,
société civile. Ok, merci. Moi, je souhaite vivement un développement harmonieux du Nord pour une paix durable et définitive au Mali.
D'accord. Merci beaucoup, M. Diakité. Le cri de la maman.
Le cri de la maman, c'est que je voudrais encore rappeler aux gens que le Mali est un et indivisible et œuvrons tous ensemble pour que maintenir cette unité du Mali.
Merci beaucoup, madame. Merci, messieurs, pour votre disponibilité. Ce débat s'achève. Il a été réalisé par Ousmane Djadje Touré. Je suis Famoussa Sidibé. Petting Diarra était à la mise en onde. Nous vous entretenons sur la place des acteurs dans les pourparlers d'Alger. Merci à vous de l'avoir suivi. Nous vous disons à demain pour un autre débat.
Le grand dialogue.
Sigi Kafoba.
Edouani wa Makaran.
Le grand dialogue, l'émission de débat du studio Tamani sur votre radio.
Chenibiro.
Halo de Mouni.
Chenibiri. Sigi Kafoba.
Le grand dialogue.
Le grand dialogue.